Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première de la nouvelle saison du débat du jour sur RFI. Nous sommes ravis de vous retrouver et de vous accompagner. C'est la rentrée pour nous aujourd'hui, mais c'était aussi et surtout la rentrée scolaire en France pour près de 13 millions d'élèves et 900 000 enseignants. Aujourd'hui, vous le savez, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, n'a pris ses fonctions qu'au mois de mai dernier, mais il n'a pas voulu perdre de temps. Pour sa première rentrée en poste, il a déjà pris des mesures, initiatives pédagogiques, limitation du nombre d'élèves par classe en cours préparatoire à 12 dans les zones d'éducation prioritaire, retour pour les communes qui le souhaitent à la très décriée ou sur la très décriée réforme des rythmes scolaires et donc à la semaine de 4 jours, retour des classes bilangues du latin et du grec au collège, pas mal de mesures qui font réagir entre volonté d'avancer ou au contraire détricotage systématique de ce qui a été fait durant le quinquennat précédent. Bref, cette rentrée scolaire marque-t-elle le retour de la vieille école ? C'est le débat du jour. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir en studio deux invités. Claire Crépère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'anglais et secrétaire national du syndicat des enseignants UNSA. Et votre organisation n'est pas vraiment convaincue par les mesures prises ou annoncées en cette rentrée scolaire. Et Jean-Marc Huard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été nommé au début du mois d'août directeur général de l'enseignement scolaire sur proposition de Jean-Michel Blanquer. Vous allez donc pouvoir commencer par nous expliquer le but des mesures prises en ce début d'année, l'état d'esprit, la volonté qui anime le ministère de l'Éducation nationale, c'est quoi le but qui est recherché avec les mesures qui ont été annoncées en ce début d'année ?
Écoutez, déjà je voudrais juste m'arrêter un petit peu, mais vous l'avez dit sur la rentrée scolaire, on a aujourd'hui accueilli plus de 12 millions d'élèves, près de 900 000 enseignants accueillent ces élèves et encadrent ces élèves, et globalement la rentrée s'est très bien passée. Donc c'est un point vraiment que je voulais souligner. Le but, il est clair, et je crois que la priorité du ministre pour la rentrée, elle est absolument fondamentale. C'est la priorité absolue donnée au premier degré et dans le premier degré, la focalisation qui doit être faite sur les plus petites classes et notamment les classes de cours préparatoires, de manière à obtenir un taux de 100% de réussite à l'issue du cours préparatoire, de manière à ce que les élèves de cours préparatoire puissent parfaitement maîtriser les fondamentaux que sont lire, écrire, compter et respecter autrui.
Alors Claire Crépère, est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression que ce gouvernement envoie un signal aussi, allez on va tenter le mot, un petit peu politique en prenant le contre-pied systématique de ce qui a été fait sous le quinquennat précédent ?
Alors je pense que vous êtes un petit peu caricatural quand vous dites contre-pied systématique parce que par exemple la priorité aux primaires, c'était une priorité qui était déjà en place dans les années précédentes. C'est quelque chose que nous, notre syndicat, a beaucoup porté. Nous pensons qu'effectivement l'école primaire est sous-dotée en France et qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour que nos élèves jeunes progressent. En revanche, nous ne partageons pas la façon dont Jean-Michel Blanquer l'approche en disant 100% de réussite au CP. Il focalise toute l'attention sur une année, une seule année, alors que nous avions plutôt tenté de mettre en place une logique de cycle qui prend mieux en compte les différences entre les enfants, les différences de rythme, la possibilité, la lecture, c'est quelque chose qui s'acquiert dans la durée. On ne peut pas dire que à la fin du CP, un enfant sait lire. Tout dépend ce qu'on entend par lire, évidemment. Si on entend par lire juste déchiffrer, bien sûr, ça c'est à acquérir au CP. Mais on est vraiment très inquiet de ce stress qui est mis sur ce CP, qui n'est pas le nec plus ultra de la réussite scolaire. Bien sûr, c'est important d'entrer dans les apprentissages de l'école élémentaire de manière réussie, mais il faut parler de l'importance de la grande section de maternelle pour la réussite au CP, et il faut parler aussi de la suite du travail qui est mené par les maîtres de CE1 et de CE2 pour que, à la fin du cycle 2, tous nos élèves effectivement soient entrés et maîtrisent les compétences que Monsieur Huard vient de citer. Et la pression peut être contre-productive. Franchement, pour des petits, ça n'est pas la bonne entrée.
Jean-Marc Huard, est-ce que vous parlez de la même chose ? Pour vous, apprendre à lire, ça veut dire déchiffrer à la fin du CP ? Ou est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer, d'ailleurs, pourquoi pas commencer des premiers apprentissages en dernière section de maternelle ?
Je crois qu'on le commence déjà le cas, en dernière section de maternelle. Oui. Et le ministre insiste beaucoup aussi sur l'école maternelle, qu'il veut être l'école du langage. Madame Crêpeur parle de pression. Moi, je voudrais parler d'attention. Quelle est la réalité des choses? La réalité, c'est que effectivement, un grand nombre d'élèves arrivent à acquérir les compétences en lecture et en écriture dès les plus petites sections. Néanmoins, nous constatons qu'un pourcentage important d'élèves, alors on l'estime selon les études entre 15 et 20%, ne maîtrisent pas à l'issue du cours préparatoire les compétences de lecture et d'écriture. Ces élèves, on les retrouve tout au long de la scolarité. Vous savez très bien que nous avons encore près de 100 000 décrocheurs au lycée.
Ça veut dire l'échec scolaire, en fait, se décide au cours préparatoire, c'est ça que vous êtes en
l'échec,
train de...
L'échec scolaire, un des facteurs extrêmement importants de l'échec ou du décrochage scolaire, c'est la non-acquisition des compétences fondamentales dans les petites classes. Et donc, l'attention qui est portée au premier degré dans son ensemble, l'école maternelle comme école du langage, à l'école primaire sur l'acquisition des fondamentaux, elle prend, vous m'interrogiez sur cette rentrée, elle met un focus, cette rentrée particulier, sur la classe de CP.
Alors, une des mesures... Oui.
Oui, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, d'accord pour l'attention que vous portez aux premières classes de l'école élémentaire, mais à ce moment-là, comment expliquer l'autorisation que le ministre a donnée aux écoles et aux collectivités locales de revenir à 4 jours de classe et donc à 4 matinées. Ces 4 matinées, enfin, on sait bien que dans les classes de CP, c'est le matin qu'on travaille en particulier la lecture, l'écriture et l'acquisition de la numératie.
Parce qu'en fin de journée, en fait, les élèves de CP sont un peu
fatigués.
En
fait, le message qu'on donne, c'est quand même qu'on supprime 20% du temps efficace pour ces apprentissages fondamentaux, alors que de l'autre côté, on dit que c'est ça qui est essentiel. Donc là, on a aussi un problème quand même de cohérence, de politique. Le ministre ne peut pas dire 4 jours et demi et 4 jours, c'est la même chose, c'est équivalent. Non, ça n'est pas équivalent. 5 matinées de classe, pour les petits, c'est très important.
Est-ce qu'on durcit un petit peu l'apprentissage, Jean-Marc Huard?
Alors, juste remettre peut-être les choses en place sur les chiffres de la rentrée en ce qui concerne les rythmes scolaires. Nous avons en gros un tiers des écoles qui sont repassées à la semaine de 4 jours. Et nous avons
pour des raisons qui ne sont pas uniquement pédagogiques, hein, qui sont aussi financières parfois. Cette réforme des rythmes scolaires a été.
Ce sont des raisons. Encore une fois, hein, la décision, elle ne vient pas de Paris. Mmh. Quand les écoles sont revenues à 4 jours, la décision a été concertée. Elle a été concertée dans le cadre des conseils d'école, elle a été concertée avec les municipalités. Et finalement, l'inspecteur d'académie a décidé d'accorder ou non, en fonction d'un certain nombre de considérations, dont des considérations pédagogiques, l'autorisation de revenir à 4 jours. Dans quelle situation on était ? Et encore une fois, je voudrais rappeler hein, que les 4 jours et demi ou les 5 matinées, hein, puisque c'est de cela essentiellement dont il s'agit, les 5 matinées sont encore la règle. Les 4 jours sont un dispositif dérogatoire par rapport à cette règle. Qu'est-ce que l'on constatait ? Ben, on avait un certain nombre de remontées. Madame Crêpeur parlait de la fatigue sur le fait qu'effectivement les élèves, dans un certain nombre de cas, pouvaient être plus fatigués avec les 5 matinées travaillées. Pourquoi ? Les parents travaillent, ils ne peuvent pas venir chercher leurs enfants à 15h30 à la fin des cours. Les enfants restent dans les activités périscolaires, à la garderie ou au centre de loisirs, mais en plus doivent se lever une demi-journée de plus pour les 5 demi-journées. C'est le constat qui a été fait dans un certain nombre de communes. Et puis, je voudrais vous donner deux éléments. La première, c'est que nous avons constaté que dans les plus petites classes, et notamment à l'école maternelle, l'absentéisme avait augmenté avec la semaine de 4 jours et demi. Et l'école maternelle, on l'a dit tout à l'heure, c'est une école absolument fondamentale. Et l'autre élément, c'est que nous avions 20% des communes qui avaient libéré le vendredi après-midi. Et à la base de la réforme des rythmes scolaires, une coupure trop importante. Mmh. Et ce fait que dans 20% des cas, on avait une coupure qui était encore plus importante.
Alors une mauvaise organisation de la semaine de 4 jours et demi peut se résoudre par une meilleure organisation de la semaine de 4 jours et demi sans passer à des mesures drastiques comme la remise en cause complète et le retour à 4 jours très long pour les plus petits.
Alors, de toute façon, une des mesures phares dans cette rentrée scolaire pour le cours préparatoire, c'est dans les zones d'éducation prioritaire plus, comme on dit, le passage à 12 élèves par cours préparatoire. Ça semble comme ça, hein, de l'extérieur, je suis pas un spécialiste des questions pédagogiques, ça semble quand même être plutôt une bonne chose. L'enseignant aura plus de temps pour chaque élève, non, Claire Crépère?
Ah ben, la réduction des effectifs est de toute façon intéressante. Oui, bien sûr. Après, on sait que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de réduire les effectifs pour que la mesure soit véritablement efficace. Les évaluations qui ont été menées sur d'autres expériences de ce type ont montré qu'il y avait des conditions à ajouter pour que cette mesure soit véritablement payante. Et dans ces conditions, il y a l'amélioration des pratiques pédagogiques, la prise en compte du fait qu'on a moins d'élèves entraîne des modifications dans la façon dont on anime la classe, et puis aussi l'importance de faire de faire bénéficier les élèves de cette réduction sur plusieurs années. Donc si on n'a pas ces deux données, on peut dire que cette mesure ne sera que très partiellement efficace. Elle a été souvent abandonnée là où elle avait été mise en place, hein, je pense en particulier aux États-Unis, pour des questions de coûts. Hein, parce que le nombre de postes qui vont être impliqués dans cette réforme est faramineux quand on sera arrivé à tous les CP et tous les CE1 d'éducation prioritaire. Ça veut dire qu'il faudra supprimer les RAZ, hein, c'est-à-dire les réseaux d'aide, qu'il faudra toucher au remplacement, qu'on redéploie tous les plus de mètres que de classe qui donnaient de la souplesse et un accompagnement pédagogique qui pouvait être intéressant.
Ceux qui sont déjà donc, là sont en fait, redéployés on, sur ce, sur
même
ce système.
Si, bien sûr, on pense que c'est 12 dans un CP, c'est super, mais à un coût très très important, et il ne faudra pas oublier tout l'accompagnement pour que ça réussisse. J'ajoute en plus qu'il n'y a que 25% des élèves en difficulté qui sont en éducation prioritaire, 75% des élèves en difficulté sont dans des classes ordinaires, et eux vont se retrouver avec des effectifs en hausse, probablement, quand il faudra dégager tous ces postes.
Jean-Marc Huard, vous voulez frapper fort sur les premiers mois dans les zones les plus sensibles, quoi, tout simplement.
Oui, on veut effectivement avoir une attention particulière. Madame Crépère évoque finalement trois conditions. La première, c'est d'avoir des gens formés et avec de l'expérience. Nous avons, et c'est un des engagements présidentiels, hein, nous aurons à cette rentrée des enseignants formés dans les classes de CP à 12 élèves. Plus de 90% des enseignants, des professeurs dans ces classes ont au moins 3 années d'ancienneté.
Ça concerne 2500 classes, hein, je crois.
C'est ça. Ouais. 2500 classes ont été, 2500 classes au départ ont été dédoublées. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la question, vous l'évoquiez, des moyens. Il y a des moyens pour le premier degré, et c'est effectivement un engagement que de pouvoir privilégier le premier degré qui souffre, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Crépère, d'un retard réel en termes de moyens. Et puis la troisième condition, c'est effectivement la continuité. Et donc c'est pour ça qu'après cette rentrée, hein, le dédoublement des CP à 12 n'est pas un one shot, pardon pour l'expression anglaise, mais ça se poursuivra déjà dans l'ensemble de l'éducation prioritaire l'année prochaine, puis dans les classes de CE1. Donc je crois qu'on respecte tout à fait les conditions que vous évoquiez.
Alors, il y a d'autres questions qui se posent dans cette rentrée, et notamment au collège, avec un retour assez significatif sur la réforme du collège qui avait été présentée par Najat Vallaud-Belkacem. On réinstaure, quand elles avaient été supprimées, les classes bilingues, parce qu'elles n'ont pas forcément été supprimées. Et puis, il y a le retour du latin et du grec en tant qu'option possible dans les collèges. Est-ce que l'argument qui avait été utilisé par Najat Vallaud-Belkacem, c'est que c'est tout ça, là, les classes bilingues, le latin, le grec, c'était de l'élitisme déguisé et qui servait à faire du tri social, si on peut dire ça comme ça, entre les élèves. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle avait été très contestée par les enseignants, cette réforme du collège, Madame Crépère.
Oui, elle a été contestée par une partie des enseignants, pas tous les enseignants, qui, une grande partie, ont vu l'intérêt de dégager des moyens d'autonomie pédagogique pour pouvoir mieux accompagner les élèves, en particulier en faisant des petits groupes ou en faisant de la co-intervention. Nous, en tout cas, au SEUNSA, nous l'avons très largement soutenu et accompagné, il faut bien le dire. Hein, nous avons beaucoup rencontré nos collègues pour en parler et pour voir comment elle pouvait concrètement se mettre en œuvre. Elle était un peu rigide, un peu exigeante du point de vue de l'organisation. le texte qui est passé au mois de mai, juin, l'assouplit. Nous nous sommes battus et nous avons obtenu quelques avancées dans l'écriture du texte pour bien signifier que les moyens de l'autonomie vont d'abord aux élèves en difficulté et ensuite seulement sur des dispositifs réservés à ceux qui sont en général les plus en réussite. C'est la pratique, hein, il faut bien le dire, des classes bilingues et des options latin et grec. Ce que nous voyons pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas énormément de changements parce que ça s'est passé très tard et que tout était organisé déjà dans la plupart des collèges.
Oui, ça se verra un peu
mais
plus tôt à la rentrée prochaine.
Il nous paraît très important que le ministre porte bien le discours de d'abord les élèves les plus fragiles, ensuite ceux qui sont les plus en réussite. La remise en cause de la logique de la réforme du collège serait quand même un très mauvais signe et un très mauvais coup porté aux plus fragiles si ça allait vraiment dans le sens de la multiplication des sections dont on sait qu'elles sont fréquentées le plus largement par les familles, enfin les enfants des familles les plus favorisées.
Jean-Marc Huard, vous assumez ce retour de l'élitisme entre guillemets au collège ?
Je crois que la réforme du collège c'est vraiment le symbole de la méthode qui est voulue par le mini. C'est-à-dire, on ne remet pas en cause ce qui marche. Et vous disiez finalement, vous aviez l'impression dans votre, on ne remet pas en cause les EPI continuent d'exister, simplement assouplit leur organisation. On avait un certain nombre de remontées hein, du terrain qui nous indiquaient que 6 thèmes obligatoires sur l'ensemble de la scolarité et avec des thématiques qui étaient imposées étaient un carcan dont il était difficile avec lesquels il était difficile d'avancer. L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est de donner confiance aux équipes. Et donner confiance aux équipes c'est assouplir ce qui est trop rigide et garder ce qui marche. Ce qui a amené, effectivement, à la première partie, qui est l'assouplissement d'une partie de la réforme du collège. L'autre élément, c'est l'enrichissement. Certaines classes bilingues continuaient d'exister, mais enfin, plus d'un tiers avait été supprimé. Il y avait des conditions extrêmement fortes, et notamment le fait que la seconde langue vivante soit proposée dans l'enseignement primaire, hein, qui limitait l'accès à cet enseignement de deuxième langue vivante en classe de sixième. C'est véritablement l'idée de pouvoir offrir un nombre plus important d'élèves, quelles que soient les zones géographiques, quels que soient les collèges, un enseignement de classe bilingue, un enseignement de latin et un enseignement de grec, qui, justement, ne soit pas réservé aux plus favorisés.
Ça veut dire qu'il faut... Je voudrais
juste ajouter quand même un point important, c'est qu'il n'y a aucun moyen supplémentaire dans les établissements pour le faire. C'est-à-dire qu'on prend des heures qu'on avait pu donner à d'autres élèves pour remettre en place ces dispositifs. Mais si, on ne peut plus dédoubler, on ne peut plus mettre un certain nombre de co-interventions en place, parce qu'on choisit de mettre ces moyens-là sur la bilingue où on augmente l'horaire du latin et du grec.
Ça se fait un moyen
constant. Donc c'est quand même un vrai souci, il nous semble, de répartition des moyens de l'éducation. En termes d'équité et de soutien des plus fragiles.
La rentrée était avancée, les recteurs ont mis ici ou là, lorsqu'il était possible, des moyens supplémentaires. Mais encore une fois, on est dans un enrichissement des enseignements. C'est-à-dire que on a une offre éducative qui s'est élargie au travers des langues anciennes. Les langues anciennes sont la base notre langue. C'est un élément extrêmement important. L'acquisition d'une deuxième langue vivante le plus tôt possible est aussi un élément extrêmement important. Nous avons recréé des sections dites européennes, de langue et culture européenne. Donc les collégiens disposent aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, d'une offre de formation beaucoup plus importante.
Alors, Jean-Marc Huard, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, parce que ça va très très vite. Voyez, il nous reste une quarantaine de secondes avant de conclure. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Claire Crépère. On vous souhaite à tous les deux, même si elle est déjà largement entamée, puisque c'était aujourd'hui, une bonne rentrée. Vous continuez à enseigner, Claire Crépère ?
Pas pour l'instant,
pas
non.
Pour
je
l'instant.
Me consacre entièrement à mes responsabilités syndicales.
D'accord. Eh bien, on vous souhaite quand même une bonne rentrée à tous. Merci à Nicolas Benita qui a réalisé cette émission. Merci à Florence Ponce qui l'a préparée avec moi. On se retrouve pour un nouveau débat mercredi soir, même heure, même endroit. Au revoir.
Bonsoir.